débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec Guillaume Dard, président de Montpensier-Arbevel et vice-président de l'AFG. Dany Lang, enseignant-chercheur en économie à Sorbonne-Paris-Nord, économiste atterré, membre du Manifeste pour l'Industrie, Jean-Pierre Petit, président des Cahiers Verts de l'économie. Pas mal de réactions sur ce que vous disiez, Dany Lang, au sujet d'une Fed qui serait là, quoi qu'il arrive, pour assurer le paiement des bons du Trésor américain. Nathalie Janson me dit que la Fed ne sera jamais prêteur en dernier ressort. Mais en revanche, effectivement, elle peut facilement racheter de la dette s'il y a un coup du
Et elle l'a toujours fait.
Voilà.
Et elle l'a toujours fait.
Non, mais c'est un sujet majeur. Mais c'est un sujet.
Et dans la Constitution. Juste, si je peux me permettre, dans la Constitution américaine, il n'y a pas ce qu'il y a dans les traités européens où c'est formellement, normalement, dans le TFUE, c'est interdit à la Banque centrale de racheter directement de la dette publique.
On a vu ce qu'elle a fait.
Elle a fait sous Draghi, et ça a coûté très cher parce qu'elle a dû le faire indirectement. Elle a dû dire aux banques, vous rachetez, derrière je rachète.
C'est un sujet majeur.
C'était un marché secondaire, mais c'était d'une hypocrisie totale.
D'ailleurs, aux États-Unis, d'ailleurs, c'est un sujet majeur parce qu'aux États-Unis, très longtemps, on n'a pas voulu de banque centrale. Il y avait eu une première tentative, et elle a été arrêtée au début du 19e siècle, et la Fed n'a été créée en 1913. Donc, le rachat des obligations, c'est pas dans la Constitution américaine. Et qu'est-ce que c'est que la monnaie ? La monnaie, c'est la confiance. Parce qu'au fond, c'est la confiance. Qu'est-ce qu'il y a en face de la monnaie ? Il y a l'économie, il y a l'État, il y a le fait de pouvoir prélever des impôts, il y a le fait qu'il y ait une stabilité. Et techniquement, à l'actif d'une banque centrale, il y a essentiellement des dettes de l'État. Il y a un peu d'or et des dettes de l'État. Et c'est pour ça d'ailleurs que les banques centrales se disent, c'est pas mal qu'on ait un peu d'or de plus. Autrefois, c'était juste l'or qui faisait la contrepartie de la monnaie. Quand vous achetiez, vous aviez un dépôt en banque, en contrepartie, indirectement, il y avait de l'or.
Heureusement, on n'en est plus là, parce que c'était déflationniste comme système, on est bien d'accord.
Voilà. Mais ça repose donc sur une confiance collective sur le fait que la monnaie va conserver sa valeur. Or, elle conserve naturellement pas sa valeur à long terme. Un dollar d'aujourd'hui, ça représente combien de dollars a perdu en 100 ans, grosso modo, en pouvoir d'achat? 98%. Donc, en fait, il faut que la monnaie...
J'ai pas compris vos 98%.
Un dollar d'aujourd'hui, c'est 2 cents il y a 100 ans. Oui. C'est-à-dire 98% de la valeur de la monnaie disparaît. Si vous gardez votre billet sous votre matelas, à condition qu'il soit toujours valide, il a perdu 98%. Donc, la monnaie fiduciaire de confiance, elle fond à long terme. À court terme, elle conserve sa valeur sous réserve qu'on ait confiance. Et de temps en temps, la confiance se rompt parce qu'à un moment où il y a de l'inflation, les banques impriment trop de billets. C'est l'histoire de Weimar. On avait demandé au gouverneur de la Banque Centrale Allemande pourquoi il avait fait autant de billets. Il dit, il y en avait besoin. Voilà. Sinon, il y a de la déflation. Mmh. Donc, et la confiance dans la monnaie, elle dure sous réserve qu'il y a un gars qui a les manettes, qui est le gouverneur de la Banque Centrale et sa petite équipe, qui ne fasse pas ce que lui dit le gouvernement toutes les deux minutes, puisque le gouvernement, gouvernement démocratique, il est soumis à une pression en disant « on a besoin d'argent, il faut payer tout le monde, et fais-moi plus d'argent ». Et donc, le gouverneur de la Banque Centrale, il doit rester raisonnable, il doit avoir des règles. Et oui, il va acheter, si on reste dans un fonctionnement à peu près normal, il va acheter de la dette d'État pour qu'il n'y ait pas trop d'accidents. Mais s'il le fait les yeux fermés et à livre ouvert, provoquer la fuite devant la monnaie parce qu'on n'aura plus confiance.
Attention quand même à ce genre de raisonnement qu'on a mis dans les traités et qui ont fait que la BCE a mis 3 ans à faire le nécessaire en 2009. On a laissé traîner 2009-2010. Il a fallu attendre septembre et les annonces de M. Draghi, qui n'avait pas les outils d'ailleurs pour faire ce qu'il a fait. Il est allé en parallèle des traités, il faut être clair. Et ça nous a coûté très cher parce qu'il a dû dire aux banques, faites-le, et moi derrière, je rachète.
Ok, dans un sens, mais si on va dans l'autre et qu'on achetait tous azimuts, toute dette et de...
Je n'ai jamais dit ça.
Juste un point.
J'ai dit que la dette américaine était garantie par la Fed. Alors, peut-être que ce n'est pas le cas dans les traités, mais formellement, c'est le cas.
Bon. On avance, Jean-Pierre, ce que vous vouliez dire à propos des taux, notamment la comparaison taux Europe.
Je vais essayer de réconcilier tout le monde parce que de toute façon...
Tout le monde.
Les taux d'intérêt réels, longs, réels, aujourd'hui sont...
Alors, le taux d'intérêt réel, c'est le taux d'intérêt où on soustrait l'inflation.
Ouais, les anticipations d'inflation.
C'est ce qui compte pour la soutenabilité de la dette publique.
C'est ce qui compte pour la soutenabilité.
Aujourd'hui, ils sont un peu plus de 2 aux États-Unis. Ils sont un peu plus de 1 en zone euro. Ça ne tient pas, pour moi. Compte tenu des
Qu'est-ce qui ne tient pas ?
C'est le niveau de taux réel. Il faudrait qu'il soit plus bas. Pourquoi ? Parce que la croissance potentielle, alors elle a un petit peu augmenté aux États-Unis, mais en Europe, elle a plutôt tendance à baisser. On est à 0,8 pour moi en zone euro. Donc, avec un taux réel au-dessus de 0,8, déjà, il y a une question objective de soutenabilité. Mais avec les besoins de financement qu'on a sur les 10 prochaines années ou les 20 prochaines années, ça ne tient pas.
Donc, il faut que les taux baissent.
La transition énergétique, la transition numérique, la transition géopolitique, politique. Il veut augmenter les dépenses de défense comme jamais on l'a fait depuis 1945, en l'espace, on va dire, d'environ 5 ans. La transition démographique avec le vieillissement, enfin, tout ça, on va pas tenir. Enfin, je veux dire, à la fois financièrement, mais aussi économiquement, j'ai envie de dire politiquement. Donc, il faudra passer par des taux réels plus bas. Et je pense qu'on finira par baisser les taux directeurs par un niveau proche de zéro.
Comment on passe par des taux réels plus bas?
Ah ben, il n'y a qu'un seul moyen pour être sûr de les faire passer sous les zéros, à mon avis, c'est le quantitative easing.
D'accord.
C'est ça qui a fait baisser. Quand la Banque centrale se présente acheteuse en dernier ressort des obligations d'État, personne ne va s'y opposer. Parce qu'on ne peut pas s'y opposer à une Banque centrale, par définition, puisqu'elle n'a pas de contrainte de passif. C'est la raison pour laquelle, aux États-Unis, en Europe et encore au Japon aujourd'hui, les taux d'intérêt réels ont été et vont redevenir, selon moi, au cours des prochaines années, pas immédiatement, ni même en 2026, mais vont repasser en territoire négatif.
C'est votre bonne idée. L'avenir est dans des taux réels négatifs, voilà, avec un retour des politiques.
C'est un débat extrêmement intéressant, parce que on poursuit le raisonnement. Je comprends très bien ce que veut dire Jean-Pierre.
Mais moi aussi.
Mais à ce moment-là, on repasse dans la phase précédente, c'est-à-dire celle de 2020, où on a eu quoi? On a eu l'effet Cantillon, c'est-à-dire que l'inflation, elle ne se passe pas dans les prix de consommation courante.
Mais dans les actifs.
Mais dans les actifs, avec une bulle d'actifs extrêmement forte. Alors, on dirait, ça va. Je sais pas, il y avait un auditeur qui disait Montpensier Bevel, c'est très bon pour des sociétés comme nous.
Oui. Donc, et pour les c'était sur les marchés et dans l'IMO.
Et pour les investisseurs qui achètent des actifs financiers. Et donc, ça repose un problème de bulle, puisqu'on l'a vu, et que donc là, et d'inégalité, et de société à deux vitesses. Donc, c'est assez complexe. Je crains, en fait, que Jean-Pierre ait raison, parce que les banques centrales, en plus, ça les arrange, parce qu'elles ont, dans leur bilan, beaucoup d'obligations sur lesquelles elles perdent de l'argent depuis la montée des taux obligataires. Et vous avez vu, il y a un gros débat à la Banque d'Angleterre, qui doit être remboursée par l'État, demande à ce qu'éventuellement l'État rachète un peu d'obligations. Donc ça fait des jeux de bons taux assez complexes. Donc il peut y avoir une volonté de certaines banques centrales de refaire baisser les taux très fortement. Ça résoudra un certain nombre de problèmes, comme l'a dit Jean-Pierre, mais ça va en créer des monstrueux. Et moi, je le dis, si on fait n'importe quoi avec la monnaie, on arrivera à créer une fuite devant la monnaie à un moment ou à un autre. C'est pour ça, d'ailleurs, que les monnaies numériques et que le Bitcoin continuent leur chemin. Actifs numériques.
Jean-Pierre ait raison et je crains que Guillaume ait raison.
J'ai résolu ce problème que tu viens d'évoquer depuis 25 ans en parlant d'économie de bulle. En disant que
le fait de parler d'économie de bulle, est-ce que ça résout le problème? Est-ce qu'on peut se permettre de refaire une bulle d'actifs comme celle qu'on a vécue avec les QE?
Il y a plein de survalorisations d'actifs. Alors, on ne parle pas de bulle parce que le terme de bulle, l'expression bulle, la définition d'une bulle mériterait d'être un petit peu plus explicitée et plus d'un point de vue empirique et scientifique. Mais indépendamment de ça, c'est le monde dans lequel on vit depuis, j'ai envie de dire. Bah, l'acte fondateur, moi, je l'avais daté au 19 octobre 1987, lorsque Alan Greenspan, à la suite du krach boursier, avait injecté des liquidités. La Banque du Japon avait injecté des liquidités au point de créer les deux plus grandes bulles contemporaines dans l'immobilier et dans la bourse, en plus. Le Japon, qui ne sont d'ailleurs jamais vraiment remis complètement. Et on vit comme ça. Et on a besoin de taux réels.
De taux réels négatifs.
Moi, je disais, pour résumer les choses, il faut vivre dans l'économie de bulle parce qu'on n'a pas le choix, mais pas de l'économie de bulle. Ça ne devrait pas empêcher les réformes. Non. Et les États-Unis montrent quand même qu'ils font des choses bien.
Jean-Pierre, nous, les Européens. Vous avez très certes, vous êtes. Le scénario est très probable. Je pense que le scénario de Guillaume l'est également.
C'est pas incompatible.
Si on revient dans ces univers-là, je trouve ça un peu fou.
J'aimerais réagir.
Et l'autre univers possible. Où on a.
Allez, vas-y, Denis.
Je sais pas où est le point. Alors, vas-y, Denis.
J'aimerais réagir parce que je suis pas sûr que ce que vous avez dit est encore adapté au monde contemporain. Évidemment, quand on injectait trop de monnaie années, ça avait des effets inflationnistes. Ça a été le cas sous la Régence entre Louis XIV et Louis XV. On n'en est plus là. Le système monétaire a beaucoup changé. Quand on injecte massivement de la monnaie, ça n'a pas nécessairement des effets inflationnistes, en tout cas dans l'inflation sur son ensemble. Effectivement, le QE a eu quelques effets inflationnistes sur des actifs et sur l'immobilier. Mais par contre, je voudrais souligner à quel point je suis d'accord avec vous sur la nécessité d'avoir des taux
réels négatifs.
Parce que les taux réels négatifs, finalement, ça permet l'émergence d'une classe moyenne. Mmh. C'est comme ça qu'on a fait émerger en France une classe moyenne pendant les 30 Glorieuses. On avait des taux réels très négatifs, ce qui fait que beaucoup de gens ont accédé à la propriété. Dans un contexte où on a besoin, un, de refaire les logements, il faut réfléchir à la réfection des logements, revenir sur la prime rénov, c'était pas une bonne idée. On en a besoin. Dans un contexte où on a besoin de construire, il faudrait, dans l'absolu, avoir un peu plus d'inflation. L'inflation qui était trop élevée aux US, maintenant, se retourne comme un atout parce que ça vous fait un taux d'intérêt réel qui est plus bas. Donc, je suis d'accord avec vous, il faudrait baisser le taux d'intérêt nominal de la Banque centrale. Jusqu'à quel niveau, c'est à discuter. Est-ce qu'il faut aller jusqu'au QI ? Je suis partagé. D'après mes derniers travaux, le QI a aussi des effets intéressant parce que en matière de redistribution, il profite aux classes moyennes et il profite un peu moins aux 1% et aux 10% que classes moyennes, même s'il leur profite quand même. Je suis pas sûr qu'il faut revenir au QI. Par
on
contre,
avait
si on veut un taux d'intérêt réel négatif, il faut absolument baisser. Bon. Oui, non, mais c'est les banques centrales disaient que ça baisse les inégalités. Beaucoup d'économistes disaient que ça les augmente. D'après mes travaux, ça enrichit ceux qui ont déjà des actifs, c'est-à-dire des maisons, des actions, des obligations, mais ça enrichit moins ceux qui sont tout en haut que ceux qui sont au milieu. Alors, mes travaux peuvent être faux, mais je suis assez confiant sur ce travail.
Quantitative easing bis. La photographie de la Banque mondiale, avec tout ce qu'on vient de se dire là, la solution de demain, de toute façon, elle est dans les mains des banques centrales avec des taux d'intérêt réels négatifs et pourquoi pas des politiques expansionnistes quantitatives de la part des grandes banques centrales. Et là, on a la Banque mondiale qui quand même nous fait un tableau. Il faut combien de taux d'intérêt réel négatif, là, quand on voit qu'à quel
point ça... Attends, tu veux préciser le tableau de la Banque mondiale ?
Non, mais le sujet...
Le tableau de la Banque... Pardon ?
C'est pas les taux, le sujet. Parce que, pardon, moi, je l'ai bien lu, l'article de la Banque mondiale, et ça fait suite à un certain nombre d'articles qui montrent la corrélation, et on a travaillé chez Montpensier Bevel sur des études très longues, sur la corrélation entre le commerce international et la croissance.
C'est exactement ça, l'histoire.
Et donc, le commerce international... Alors, c'est un peu l'œuf et la poule, mais enfin, l'œuf a l'air d'être quand même le commerce. C'est-à-dire que la croissance du commerce contribue à celle de la croissance mondiale. Et donc, dès qu'on ralentit le commerce international, on ralentit la croissance. Et donc, bien évidemment, le sujet des droits de douane est majeur. Et toute restriction du commerce a des effets très, très négatifs sur la croissance. Mais le sujet, c'est que le commerce, il se développe deux fois plus vite en moyenne que la croissance. Pas exactement maintenant, mais c'est si vous prenez sur 50 ans, ça va deux fois plus vite. Mais dans le commerce, autrefois, ça se passait dans notre petite bulle d'États occidentaux, entre guillemets, qui représente qu'un milliard d'habitants sur les 8 milliards de la Terre. Et donc, les pays émergents, et surtout la Chine, ont pris leur part du marché. Et donc, c'est là où le commerce devient plus antagonisant, entre guillemets, notamment pour les États-Unis, et qui vont réduire le commerce. Mais si on réduit le commerce international, on va réduire la croissance. On est dans cette phase-là, et c'est ce que la Banque mondiale démontre dans son très bon passage.
Elle a dit que les pays pauvres vont mettre 20 ans à s'en remettre.
Juste une réaction. Là, on a un point de désaccord.
Qu'est-ce qu'elle dit, la Banque mondiale ? J'aimerais savoir. Tu as l'air de dire qu'elle décrit des choses horribles.
Elle dit qu'on va avoir 2,5 de croissance mondiale.
La Banque mondiale nous explique que globalement, on est en 2025 en train de vivre la pire année depuis 2008 et que globalement, la décennie...
C'est n'importe quoi.
Ah ben, c'est les conclusions de la Banque mondiale.
En 2009, on est en négatif. En 2020, on est en négatif. En 2015, on est en dessous. 2016, la croissance... Les États-Unis sont même pas à 2. C'est quoi ces histoires ?
Non, il dit 2,5 sur le mondial. C'est la pire imparcielle du Covid.
Oui. Elle compare 2025 à 2008. Elle compare 2025 à 2008.
Après s'être attaqué au FMI, attaque la Banque mondiale.
Ça me paraît pas juste.
Ça vous paraît pas
2015,
juste.
2015, 2016, c'est une mauvaise année. 2011 est une mauvaise année.
2,5, c'est bas, Jean-Pierre, au niveau mondial.
C'est bas. Ah, il résonne en PPA déjà ou en dollars ? Parce que c'est pas la même chose.
Si on parait
c'est
une bonne question.
Si m'est juste permis d'intervenir.
Oui, allez-y.
Entre-temps, effectivement, il faut voir quel est le raisonnement. Moi, j'ai pas lu non plus. J'ai essayé de le trouver.
2,3% contre 2,7 en 2025.
On n'est quand même pas en 2008. On n'est pas en 2008.
Alors, on va se battre sur les conclusions.
C'est l'effondrement général disait.
Non, mais Nicolas, c'est Nicolas qui fait la synthèse. Lisez le papier. Ouais. C'est pas sur son là. Il dit c'est une très mauvaise année et on comprend pourquoi.
C'est pas une bonne année, je suis d'accord, mais c'est pas une année catastrophique.
Bon. Bah, au niveau mondial, si tu veux.
J'aimerais juste revenir sur la causalité entre le commerce et. Il y a une corrélation entre le commerce et la croissance. Cela dit, il y a quand même des travaux, et notamment les travaux de l'historien Paul Béroc, qui montreraient plutôt que la causalité, c'est de la croissance vers le commerce. Ce qui ne veut pas dire que les droits de douane de tous les côtés, qui ne sont pas au service d'une politique industrielle, notamment ceux de Trump, ont du sens. Hein. Les droits de douane sous M. Biden en avaient beaucoup plus, parce que c'était au service d'une politique ciblée, industrielle, etc. Mais les années 30, on a réduit le commerce mondial fortement, trop fortement sans doute, mais c'était une conséquence de l'effondrement de la croissance. Donc attention à la causalité entre croissance et commerce. Paul Béroc développe le 19e siècle et il dit clairement c'est dans les périodes les plus protectionnistes qu'on a eu le plus de croissance. Et il y a d'autres travaux qui vont dans ce sens. Tous les travaux ne vont pas dans ce sens-là, mais attention au sens de la causalité quand même.
Juste un...
Jean-Pierre Petit.
Sur la croissance. Cette année aux États-Unis, moi je te dis, j'ai un 7. Le consensus un peu en dessous.
0,7 en zone euro, 1,4 pour les États-Unis.
La zone euro est capable de faire un peu plus.
4,5 en Chine, nous dit.
Mais c'est la Chine, si t'as 4,5 en Chine, elle te tire.
C'est le chiffre. Le chiffre est inchangé pour la Chine à 4,5 dans les docs de la Banque mondiale. Mais ce sont les pays en voie de développement et les pays pauvres qui trinquent.
L'Inde est à 5,5. Non, je suis pas d'accord.
L'Inde est un petit peu en dessous. La Chine. Non, mais si on analyse, si on analyse le cycle,
c'est pas terrible.
La croissance mondiale, elle était plutôt à 3,5-4, tu dirais.
Oh non, ça faisait un petit moment qu'on n'y était plus. Enfin, ah si, en 2021, mais 2021.
Voilà. Non, mais on prend un trend un peu long. On était à 3,4. Pourquoi? Parce qu'on avait une Chine très longtemps à 10, à 7. Mais maintenant qui a passé les 5 à la baisse. On a eu l'Inde, mais c'est pas très gros au niveau mondial.
Elle monte pas au niveau
Mais ça fait 7%. On a eu des États-Unis à 3% et on a une Europe qui n'arrive jamais à s'en tirer, disons à 1,5 en moyenne. Bon. Et donc là, personne ne sauve. Dans les périodes précédentes, vous aviez la Chine qui assurait à elle-même 30% de la croissance mondiale. Donc alors elle est plus grosse, donc 4,5 c'est quand même significatif. Elle sauve la croissance mondiale à ce niveau-là. Elle la sauve quand même. Mais on voit bien, comme pour les aspects démographiques, qu'on est en train de tangenter vers nos niveaux bas occidentaux pour les pays émergents.
Oui, mais c'est pas 2008 pour autant. Et puis par ailleurs,
il faut retenir.
Et puis par ailleurs, les 4,5 pour la Chine, j'aimerais quand même rappeler.
C'est un trend négatif.
On va pas se battre sur les conclusions et la précision.
Non, le trend est négatif, mais c'est pas comparable à 2008, je suis d'accord avec vous. Ceci étant dit, en Chine, ça me paraît extrêmement fragile au vu de l'endettement privé qui a atteint des niveaux stratosphériques.
Et public.
Attention. Alors certes, en Chine, l'État contrôle directement les banques et donc pourrait agir de manière beaucoup plus forte que dans les pays occidentaux, mais quand même l'endettement privé est très inquiétant en Chine et pourrait durablement plomber le pays.
C'est un pays qui est devenu endetté et vieux avant d'avoir été riche. Pour un pays à $21,000 par habitant en PPA, c'est problématique.
Parité de pouvoir d'achat.
Mais quand même, gardons, il y a un petit trou de souris pour la Chine pour les 20 dernières années qui nous ont rappelé dernièrement dans la bataille avec Trump, c'est que c'est devenu aussi une puissance technologique. Et c'est le seul pays à revenu intermédiaire qui est devenu une puissance technologique.
Complètement, ils l'ont
c'est
fait.
C'est le petit trou de souris.
Premier pays pour les robots,
les voitures électriques.
Xi Jinping, il doit aller là-dedans et pas faire ses bêtises de 2021 s'il recommence à faire ses...
On avance.
C'est devenu une puissance technologique aussi parce qu'ils ont copié les brevets sans respecter les
droits. Ils sont pas tous des crétins.
J'ai pas dit que c'était des crétins. Ils sont très intelligents.
Ils ont profité.
Ils ont pris une longueur d'avance sur la voiture.
Ils ont pris une longueur d'avance en copiant les brevets sans payer les brevets. Donc,
je sais pas quels brevets ils ont copiés, mais nous, on ne les a pas, les brevets.
Quand vous allez à Shenzhen, si vous voulez.
Ils nous ont dépassés, évidemment.
Quand vous allez à Shenzhen, tout est électrique. D'ailleurs, c'est gênant tellement c'est silencieux que vous voyez des drones livrer les paquets. Que vous voyez des gens payer avec la paume de leurs mains, ils ont pris une bonne avance.
On a 6 minutes.
Je vais juste donner un chiffre.
Un chiffre.
La première fois que j'étais en République populaire de Chine, c'est en 89, l'année de Tiananmen, et les dépenses de R&D en pourcentage du PIB étaient de 0,4%. Aujourd'hui, elles sont de 2,5%.
Oui,
Au-dessus. Et le PIB a été multiplié par 1000.
En plus, oui. Nous, on est à 2,2 du PIB.
Oui, nous, on coupe dans les budgets de la recherche.
On ne va pas faire du budget de la recherche maintenant. On a 6 minutes. Je voudrais qu'on parle de l'euro numérique. J'adore ce sujet. Sur les réseaux sociaux, dès qu'on voit Euro Numérique, les gens sont persuadés que ça va être la pire attaque et le pire, la pire entorse à la liberté individuelle des individus jusqu'à la disparition du cash. C'est la grande idée qui circule. Les banques, elles, sont tétanisées avec ce projet dont elles ont du mal à voir les limites précises. Mais on peut tout imaginer. Alors là, elles sont en train de chiffrer ce que ça leur coûterait si l'euro numérique intervenait. Mais c'est même leur existence même de banque commerciale qui commence à créer des inquiétudes. Guillaume Dard, par rapport à ce sujet sur lequel la Banque Centrale Européenne avance inexorablement.
Le prix Nobel Hayek, en 1974, disait « Si on veut retrouver une monnaie solide, il faut l'enlever des mains des gouvernements. » Et il rajoutait « Comme c'est un peu compliqué, il faut le faire doucement. » Et en 99, Friedman disait « Internet naît, il va bien trouver un moyen de créer une sorte de nouveau système monétaire. » Et ça a été très en douceur, très progressif, et on a vu le Bitcoin surgir, dont on a annoncé la fin à peu près tous les ans, la catastrophe à venir, et qui s'est progressivement infiltré dans le système financier mondial, à tel point que vous avez vu que c'est le tracker de BlackRock qui a représenté, je ne sais pas combien il fait maintenant, mais enfin 40 milliards de dollars, que l'effet de la blockchain globale a contribué à cela, que le Bitcoin et d'autres monnaies, mais surtout le Bitcoin, parce que c'est celui dont le système semble le plus structuré, s'est installé dans le paysage financier. Et pourquoi ? Parce que, justement, personne ne peut en créer plus qu'un certain nombre, alors que le gouvernement, comme on l'a dit, peut faire de la planche à billets.
Alors, le Bitcoin, c'est comme l'or, c'est une quantité finie.
Alors, les banques...
C'est une quantité finie.
Les banques centrales ont vu le mouvement et ont vu la facilité aussi de développement de nos habitudes numériques et se sont dit, ce serait bien qu'il y ait une monnaie numérique. Mais alors, se pose ensuite immédiatement un certain nombre de problèmes, c'est que le Bitcoin n'est pas anonyme non plus, mais l'idée du Bitcoin d'une banque centrale, c'est quand même il va être à votre nom, et puis ça permet en théorie de vous envoyer de l'argent quand il y a la pandémie de 2020.
Ah, hélicoptère monnaie
immédiat. Oui. Mais en même temps, ça peut inquiéter pour se dire ce qu'on a mis sur mon compte, est-ce qu'on peut l'enlever ? Et traditionnellement, la banque centrale crée la base monétaire, refinance les banques commerciales qui, elles, créent vraiment la monnaie par l'effet du multiplicateur. Et les banques commerciales se disent, mais on va être bypassé s'il y a ce système-là. Oui. Alors, on a commencé à dire, non, mais ce sera qu'une petite tirelire, avec un maximum de 3 000 euros.
Oui.
Donc, ça crée un premier débat, ça fait peur aux banques commerciales parce que ça prend leur business. Le deuxième débat pour les banques commerciales, c'est que ça va coûter très cher à organiser et à équiper. Et le troisième phénomène, c'est que c'est pas sûr que ça fonctionne puisque ça n'a pas justement l'argument de la liberté que peut donner un crypto-actif. Je vais pas dire crypto-monnaie, mais la monnaie, on n'est peut-être pas sûr de la valeur de votre monnaie.
Sacré débat sur cet euro numérique. Allez-y, Dany Lang.
Alors là, j'ai des désaccords, notamment sur la pluralité.
Tant mieux.
Allez-y.
Sur les
pluralités. La pluralité monétaire.
Monétaire en Allemagne, quand on a l'hyperinflation, comment est-ce que M. Schart, commissaire à la monnaie, résout l'hyperinflation en interdisant toutes les monnaies parallèles, etc., ce qui a ruiné des centaines de ménages. Il les interdit. Et c'est comme ça qu'il tue. Donc les monnaies parallèles, c'est une idée qui peut être séduisante pour un certain nombre de personnes, je n'en fais pas partie, parce qu'attention, ça peut être une source aussi d'inflation, ça vous permet... l'inflation, c'est aussi une situation où on fuit la monnaie nationale pour s'orienter vers des monnaies parallèles ou des monnaies étrangères. Bon, premier point. Deuxième point, les banques commerciales n'ont pas besoin de collecter des dépôts massifs pour faire des crédits. Le ratio entre les deux est extrêmement faible. On est dans un système où quand une banque estime qu'un client est solvable... elle va prêter. Alors évidemment, le taux auquel elle prête dépend du taux auquel elle-même peut emprunter auprès de la Banque centrale, d'où l'intérêt des taux dont on parlait tout à l'heure. Mais ce n'est pas 3 000 euros qui vont faire en sorte que les banques commerciales n'ont plus du tout de liquidité, 3 000 euros par personne. Simplement...
Les angoisses sont... Il y a les grandes promesses de départ rassurantes.
Je suis curieux de vous entendre là-dessus.
Mais on a une minute,
Parce que, très franchement, il y a beaucoup de banques centrales. Enfin, moi, je connais des gens qui travaillent dans les banques centrales, certes dans des pays en développement, qui me disent, on a créé la monnaie numérique parce que, tout simplement, on a peur d'être dépassé par le train, mais on n'est pas sûr de à quoi ça sert.
Jean-Pierre, on a une minute, pas plus.
Trois choses que j'ai dites sur le Bitcoin depuis 10 ans. Mon premier article sur le Bitcoin, c'est en 2017.
Et on va droit au but.
Je savais pas ce que c'était. J'ai dit qu'il fallait en mettre 0,5% dans le portefeuille. Avec la hausse des prix, maintenant, t'es à 12 ou 13. Donc là, faudrait plutôt alléger. On va dire les choses comme ça. Moi, ce qui m'a surpris dans le Bitcoin, sur les dernières années, c'est que ça a surmonté tous les chocs. L'affaire Bankfield, et quand il y a eu l'acceptation par la SEC, ça a été un super gros booster. Le 5 novembre, quand Trump a été élu...
Quoi par la SEC?
Parce que ça a validé...
Ah oui, d'accord. Okay. Et le mot de la fin?
Le mot de la fin, c'est dire, qu'est-ce qu'il fallait faire le 5 novembre en matière de Bitcoin? J'ai dit que quand un actif était sponsorisé par la première puissance mondiale, en général, faut plutôt aller dans le même sens que le marché. Voilà. Et j'ajouterais que, comme l'or, ce qui fait la séduction du Bitcoin aussi, c'est comme l'or. La production est limitée. L'or, c'est physique et le Bitcoin, c'est organisé par le système depuis 2009. Et puis, ça n'a pas de passif. Et c'est international. Pas de passif.
Et c'est une preuve de travail.
Oui, mais alors attention, la monnaie créée par la Banque centrale, volatile.
C'est un fait du roi.
Alors que l'or, non.
On a fini.
Donc, la volatilité sur le Bitcoin est beaucoup plus forte.
Vous allez découvrir le prix BFM.
Ils vont fermer boutique. Et puis, de toute façon, l'euro numérique, on le refera parce qu'on n'a pas eu assez de temps.
Oui, il y a encore beaucoup de choses.
Tu seras là.
À découvrir.
Allez, c'était Guillaume Dard.
Merci, Nicolas.
Dany Lang.
Merci.
Jean-Pierre Petit. Et on se retrouve.
Jusqu'au 11 juillet.
On se retrouve le. Mais demain. Demain à 9h.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.